Bonsoir, c'est Onde Noire, l'émission sur l'actualité du polar présentée par Corinne et Jacques.
Bonsoir, et ce soir nous sommes ravis d'accueillir Antoine Chénas dans Onde Noire. Antoine Chénas, bonsoir.
Bonsoir.
Et donc, on va vous présenter un petit peu, on va dire, un nouveau venu, j'espère que ça ne vous vexe pas, dans la planète polar, puisque votre premier livre a été publié à la série noire en 2007, ça s'appelle Aime-moi Casanova, et que le deuxième, Versus, est sorti, j'allais dire vient de sortir, mais ça fait quand même quelques mois, c'est depuis le mois de janvier 2008. Et je vais me permettre de dire que vos livres, quand ils sont sortis, ils ont fait pas mal de bruit, et qu'il y a eu pas mal de discussions autour de ces livres, vu les thèmes abordés, vu tout ça. Mais nous, on est vraiment très contents de vous recevoir, parce que la première chose que je voulais vous dire, et la première chose que je veux dire aussi aux auditeurs, c'est que c'est des livres qui nous ont beaucoup intéressés, beaucoup plu, et qu'on a beaucoup aimé ces livres. Voilà, donc on va essayer de faire partager notre enthousiasme en discutant un petit peu autour des thèmes abordés dans ces livres. Et puis comme aujourd'hui on a un peu plus de temps puisque les deux parties de l'émission sont consacrées à une interview, on va peut-être un peu parler du processus d'écriture, ce dont on n'a jamais le temps avec d'autres interviews. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se met à une table et qu'on écrit et qu'on insiste jusqu'à finir un roman ?
Je crois que c'est avant tout, on le fait parce qu'on en éprouve le besoin. C'est un processus qui est lent. Moi, j'ai commencé l'écriture à l'âge de 18 ans. J'ai commencé par des poèmes. Après, j'ai évolué lentement vers la nouvelle. Et puis, le corpus est, petit à petit s'est étoffé jusqu'à ce que ça devienne des romans. Mais ça se fait assez lentement. En général, j'ai des périodes de latence comme ça où je réfléchis un petit peu à l'histoire et où je j'écris pas un mot. Et par contre, quand le désir d'écriture est là, là par contre, ça se fait vraiment assez rapidement, d'une manière assez instinctive, en tout cas pour le premier jet. Et c'est en quelque sorte une espèce de défouloir, on va dire.
Alors, il y a une très jolie expression de ce que vous venez de dire, le désir d'écriture. Est-ce que c'est aussi le désir de raconter des choses vécues ?
C'est avant tout le désir d'exprimer des choses, peut-être pas vécues, mais avant tout le désir d'exprimer, comment dire, de formuler un discours, de dire des choses peut-être qu'on voit pas, qu'on lit pas, ou pas de cette manière, en tout cas dans les autres romans. Moi j'ai envie de décrire ce que je voudrais lire en fait, et que je, peut-être par manque de culture ou peut-être par à cause de goûts trop sélectifs que je trouve très difficilement en littérature en général.
Alors donc ça va juste à contrario de la prochaine question un petit peu que j'avais préparée. Ah. Beaucoup d'écrivains parlent du fait qu'ils ont eu envie d'écrire en lisant tel ou tel auteur. Est-ce qu'il y a des processus comme ça qui se sont faits avec vous ? Ou donc, comme vous venez de le dire, c'est justement parce que vous n'avez jamais trouvé dans un livre ce que vous aviez envie en fait ?
Je pense, de toute façon, je pense que tous les gens qui écrivent sont avant tout des lecteurs, des gros lecteurs en général. Mais j'ai jamais voulu écrire pour faire comme les gens dont j'admirais le travail, en m'identifiant à un tel ou un tel. Moi, mon processus d'écriture, il découle plutôt d'une sorte de besoin viscéral, en quelque sorte, que je m'explique pas totalement, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça vient pas d'une volonté d'imiter des prédécesseurs ou d'écrire pour faire comme.
Alors, ce que vous venez de dire m'incite quand même à poser la question suivante, c'est-à-dire que les premières questions étaient plus générales. Là, quand on a fini vos livres, quand on referme un de vos livres, on a un petit peu l'impression que écrire, c'est aussi une manière de, entre guillemets, survivre, une manière de ne pas plonger dans l'abîme. C'est une sorte de sauvegarde, je ne sais pas. C'est évidemment très personnel et très subjectif.
Oui, moi-même, j'ai pas énormément réfléchi à la question. Hein. Je sais simplement que c'est un besoin. Je pense que si j'écrivais pas, je ferais probablement autre chose. J'ai été dessinateur pendant une partie de ma vie, j'ai été musicien pendant une autre partie de ma vie. Je pense que c'est des moyens d'expression qui se rejoignent de toute façon. Il y a certaines personnes qui ont besoin de s'exprimer, D'ailleurs, l'expression peut prendre diverses formes. Hein. Ça peut être le sport, ça peut être le modélisme. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est l'écriture.
Les origami.
Voilà, exactement.
Donc, Jacques, ça va peut-être être le moment d'écouter un premier morceau de musique avant d'évoquer plus précisément les deux romans, Et moi, Casanova et Versus.
Oui, donc un premier morceau de musique on a choisi conjointement donc, avec Antoine Chénas, qui est un morceau de Zappa, et plus particulièrement de Zappa, mais avec, en fait, c'est plutôt joué par Boulez. Le disque s'appelle The Perfect Strangers.
Toujours avec ton magnifique accent.
N'est-ce pas ? C'est Zappa, Boulez Conduct Zappa. Et là, c'est un morceau qui est repris d'un morceau qui était initialement dans Joe's Garage, un des disques de Zappa que moi, personnellement, je préfère. Et là, ce morceau s'appelle Outside Now Again.
Donc voilà, un morceau de
Frank Zappa, et qui était interprété, je vais le dire quand même, par, c'était pas Boulez en fait, c'était aussi sous la supervision de Boulez et de Frank Zappa, et c'était le Barking Pumping Digital Gratification Consort à Los Angeles.
Ouais. Voilà, d'accord.
Fallait le dire.
Donc on va parler un petit peu plus précisément de ces deux livres, on va commencer, c'est bête, mais par le premier. Et moi, Casanova, donc on y rencontre un personnage de flic. C'est le moins qu'on puisse dire, peu conventionnel. Il s'appelle Milo Rochevic.
Exactement.
Voilà. Donc, dit Casanova, beaucoup plus facile à prononcer. On ne peut pas dire, comment le définir ? Enfin, moi, j'ai trouvé une formule. On ne peut pas dire qu'il tire sur tout ce qui bouge, mais qu'il tire tout ce qui bouge.
Oui, c'est une belle formule.
Hein, voilà. Donc, pour être plus précise, il est complètement accro au sexe. Et c'est une sorte, enfin, moi, ce que j'ai aimé dans la narration, c'est que c'était une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement... On reste dans un roman avec une intrigue, entre guillemets, puisqu'il doit rechercher son collègue disparu, entre autres. Mais on ne sait pas trop si l'histoire principale, ce n'est pas justement son problème d'addiction au sexe et si ce n'est pas le thème majeur de ce roman.
Oui, oui, tout à fait. C'est un roman sur l'addiction. Il aurait pu être accro. Ce genre de héros aurait pu être accro au jeu. Il aurait pu être accro à la drogue. Là, en l'occurrence, il s'agit du sexe, simplement parce que ça me permettait aussi d'explorer tout un monde marginal, assez protéiforme, et ça me permettait de l'explorer de manière plutôt ludique. Donc je l'ai fait là, en l'occurrence, par l'intermédiaire du sexe.
Et justement, donc, Milo Rochevic, comme d'ailleurs le protagoniste, le personnage Nadzuti du deuxième, va rencontrer une série de personnages, on va dire de second rôle, qui sont aussi étonnants, moi qui ai une petite vie toute simple, les uns que les autres, et qui passent, enfin, le lecteur passe d'étonnement en étonnement parce qu'on rencontre, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des monstres, mais qui en fait, tout simplement, vivent leur obsession ou leur fantasme de manière assez libre et, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez peu conventionnelle. C'était facile à écrire ou est-ce que quand on écrit ce genre d'histoire, on pense au lecteur en face? Est-ce qu'on se dit, ah non, là, ils vont être choqués ou non, c'est pas possible que j'écrive ça? Est-ce que vous avez quelque part le lecteur en face de vous?
Non, je ne me pose pas du tout la question quand j'écris. Je ne me pose pas la question de ce qui est politiquement correct ou pas. Je ne me pose pas vraiment la question de savoir ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire. Je me contente de d'écrire ce que j'ai envie d'écrire et d'essayer quand même d'être cohérent, bien sûr, avec l'histoire. Je pense que peut-être que le thème commun un petit peu des deux livres qui apparaît un petit peu en filigrane comme ça, c'est qu'effectivement tous ces personnages secondaires là sont des monstres, enfin ou peuvent être décrits comme des monstres ou comme des déviants ou comme des pervers, mais on se rend compte dans ces livres là que souvent c'est des personnages qui sont bien plus humains que les personnages normaux qu'on rencontre dans la société normale.
Alors, une des grandes qualités, vraiment, très belle qualité de ces deux romans, c'est d'arriver à éviter tout le temps, vous venez déjà d'évoquer un petit peu ça, c'est tout manichéisme, c'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas des monstres, il n'y a pas des gentils, il n'y a pas des bons, il n'y a pas des méchants. C'est-à-dire que, vous avez employé un mot protéiforme, l'être humain est très protéiforme avec ses bons, ses mauvais côtés et tout ce qui peut lui arriver, lui asséner dans la vie. C'est quand vous avez commencé à écrire l'un ou l'autre, ça a été dans la Genèse l'envie de décrire ça ou d'écrire une histoire? C'est de parler de personnages ou de raconter une histoire?
Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ceci dit, j'ai toujours écrit là-dessus. Ça fait partie de mes obsessions.
Ah, un mot dont on va parler tout
voilà,
à l'heure.
Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il y a un petit peu des deux. C'est avant tout au personnage que je m'attache. Mais je pense qu'on ne peut pas s'attacher au personnage s'il n'y a pas d'histoire et d'armature derrière. Donc, ça sert quand même en quelque sorte de socle à des personnages qui peuvent par ailleurs être très « barrés » entre guillemets ou « borderline ». Donc, l'histoire sert de socle et sert éventuellement au lecteur... au lecteur potentiel, sert de repère intelligible.
Je vais poser une question que je n'avais pas du tout imaginée d'ailleurs, c'est par rapport à cette réponse, est-ce que, vous qui écrivez des choses que vous n'avez jamais trouvées dans d'autres romans, vous n'avez pas eu à un moment donné l'envie, l'idée de se lancer carrément dans autre chose qu'une narration d'un roman linéaire avec une histoire et justement de parler de personnages avec peut-être une construction totalement différente de ce que peut être le roman actuel? De parler, je sais pas, une mosaïque de personnages comme ça qui apparaîtrait.
Oui, éventuellement, ça pourrait peut-être arriver un jour. Pour l'instant, je reste encore assez attaché au code du roman noir et au code du thriller. Je trouve que c'est des codes qui sont très intéressants, en particulier comme tous les codes et toutes les règles, parce qu'on peut les détourner. Et pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse. Peut-être qu'un jour, il y aura un livre qui se fera en dehors de toutes les règles et de tous les dogmes. Mais pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse, c'est de jouer un petit peu avec les codes et avec les règles et de voir de quelle manière on peut les détourner, voire même peut-être les pervertir.
Donc en fait, la transgression est à tous les niveaux. La transgression est à la fois dans l'histoire, dans les personnages et dans votre écriture même.
Oui, je pense que effectivement, elle est à tous les niveaux, mais encore une fois, la transgression, c'est peut-être un terme qui est relativement ambigu ou ambivalent. C'est-à-dire, je pense que la transgression principale du livre, c'est de ce genre de livre, en tout cas, qui peuvent être par ailleurs assez radicaux, c'est de montrer justement que la véritable perversion, c'est peut-être justement la normalité.
Et c'est peut-être aussi de juger ceux qui sont différents de la normalité.
Oui, oui, exactement.
Alors, un des thèmes, je sais qu'on vous a posé souvent la question, mais au moins comme ça, vous devez être habitué. C'est vrai qu'on y pense. Surtout, je trouve, dans Versus, c'est le terme, enfin, le mot, le mal incarné, l'incarnation du mal. Est-ce que vous avez un petit peu envie d'explorer, d'aller au fond de cette idée, de ce thème, de ce mal absolu? On dirait que vous allez jusqu'au bout, vous allez essayer d'aller jusqu'au bout, de l'absolu du mal, on va dire, voilà.
Oui, éventuellement, mais c'est encore une fois, je pense que l'absolu du mal, on ne peut jamais l'atteindre.
Il reste encore des choses super.
Voilà. Donc ça reste une utopie, mais effectivement l'exploration du mal et puis aussi la manière dont il peut éventuellement se transmettre, la contamination en quelque sorte, la manière dont il peut se transmettre et la manière aussi dont les valeurs peuvent s'inverser à son contact.
Alors justement, s'inverser en miroir du mal, il y a l'être humain et il y a la souffrance qu'il peut éprouver. Et là aussi, il me semble qu'au fur et à mesure que vous nous permettez d'approcher les personnages, vous explorez aussi différentes manières de décrire les souffrances. Quand je dis « les », c'est toutes les souffrances possibles et imaginables, qu'elles soient physiques, morales, intellectuelles. Est-ce que vous avez aussi envie d'explorer ce thème de la souffrance d'autrui, la souffrance de l'être humain en général, peut-être avec des S majuscules et des lettres majuscules?
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est peut-être une souffrance presque métaphysique ou en tout cas métaphorique en tout cas. Ceci dit, je pense que les héros torturés, c'est ce qui fait un petit peu l'essence du roman noir. Simplement, peut-être que la particularité de ces livres, elle se situe justement dans le côté un petit peu extrême et dans le côté un petit peu dans cette espèce de refus de pactiser avec le lecteur éventuel. Et simplement de le laisser prendre, de lui laisser le choix de prendre l'histoire ou de la laisser éventuellement. Mais oui, c'est en tout cas, c'est une figure récurrente du roman noir. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de pervertir cette figure ou en tout cas de la déformer pour en faire quelque chose de personnel et quelque chose éventuellement qu'on lirait pas ailleurs.
Mais ça va être pour l'instant le mot de la fin de la première partie. On va reparler dans notre deuxième séquence plus en détail de M.O. Casanova et surtout de Versus, celui qui vient de paraître. Donc, on vous laisse quelques minutes pour les infos. À tout de suite.